écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 12 mars 2011. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie. À 15h du reggae avec Zarma Farai et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le magazine léger que vous attendez tous.
Ouais, léger parce que le discours là de la haute autorité et tout, avec le chat dans la gorge, ça le fait moyen.
Ouais. Soit.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Dastage et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à vous, bonjour et bienvenue. Désolé, la semaine dernière on n'était pas là et aujourd'hui encore. Voilà. Vous avez un petit aperçu de ce qui traîne au fond de nos gorges. Enfin, pour moi, c'est une allergie, c'est tout. Hein. Toi, c'est quoi? C'est le vent?
Petite voix, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu sur cette antenne, alors on est tout rouillé, c'est tout.
Regarde, lui, les médecins lui ont dit, il faut que vous fumez un paquet avant chaque intervention. Et voilà, ça, pas de souci. Bonjour, Luce.
Bonjour.
Voilà. J'espère que vous allez bien. Il fait vraiment un temps de tabac en ce moment. On a évidemment une pensée pour tous ceux que l'on connaît et qui sont au Japon et qui ont déjà eu, le plus fort tremblement de terre qui a été enregistré depuis ces 150 dernières années. Mais en plus, semblerait que il y a une centrale nucléaire qui ne soit pas en très grande forme en ce moment, puisque il y a eu une explosion ce matin à 8h30. Avec dégagement d'hydrogène, ce qui veut dire que le cœur continue à tourner en plus et que donc ils essaient malgré tout de contrôler le système. C'est pas Tchernobyl, mais estime que déjà il y aura des petits soucis. En plus, je sais pas si tu as vu les images du raz-de-marée, mais c'était assez impressionnant. Oui. Il n'y avait pas à dire, en tout cas, j'ai eu des nouvelles via Jean-David Morvan notamment, et qui lui va bien, ça a bien tangué chez lui, il y a eu de la casse, pour les autres.
Ah, tu parles du raz-de-marée du dernier sondage concernant les présidentielles?
Non, ça, il était sorti à temps pour la journée de la femme, donc forcément. Voilà, l'humour continue, comme vous voyez, c'est. Attends, pour une fois qu'il y a une femme en tête pour les présidentielles et tout le monde râle, je comprends pas là. Je comprends pas. Enfin bon, bref. Cette semaine, on va parler un petit peu de manga. Il va avoir une histoire de père. Il va avoir deux films assez prenants. Et on va parler de la cérémonie des arts. La cérémonie qui se termine en art. Voilà. Du sport.
Qui c'est qui était
du sport a dit de la bonne meuf. Et plein d'autres choses. On va en parler rapidement vis-à-vis justement des deux films qu'on a.
Oui.
Enfin, je sais pas si tu as pas suivi en plus.
Non, mais oui.
Ni Gérard, ni César, ni Oscar.
Les arts. Non, j'ai su. Non, du tout. Voilà, pour moi c'est clair. Allez, enchaîne.
Et on va commencer de suite.
Perdons pas de temps.
On va commencer de suite avec les sorties bande dessinée. Quand le lecteur veut bien, voilà.
Lecteur.
C'est l'intro qui met du temps.
Et
Non, c'est le morceau qui met du temps.
Ah ouais, non, mais avec tes trucs ambiant à la con, là, c'est normal. Mais du rock'n'roll.
Ouais, il met des intros qui démarrent pas.
Mais oui.
On va commencer avec Bakuman, le tome 5, donc, qui est arrivé chez Kana depuis un mois. Toujours Tsugumi Oba et Takeshi Obata qui sont derrière deux pseudonymes, notamment auteur de Death Note. Et t'as d'autres choses. Allez, je vous casse de suite au suspense. Si vous n'avez pas suivi, donc je rappelle le début, Mashiro et Takagi sont deux collégiens qui font connaissance et qui font le pari avant leurs 18 ans de sortir une série dans le Shonen Jump, qui est la revue de bande dessinée la plus lue au monde. Et ben ça y est, ils ont leur contrat, leur série va être publiée dans la mythique revue. plus fort tirage au monde, mais en fait, eh ben, les problèmes ne font que commencer. Croyez déjà que c'était la croix et la bannière avant d'arriver à sortir. Non, c'est pas fini, loin de là. Après tout, ils sont encore que lycéens, ils vont devoir fournir 19 pages de bande dessinée toutes les semaines. Alors comment concilier leurs études et leurs aspirations professionnelles? Ben oui, puisque le programme, c'est quand même de continuer à aller au lycée et continuer à avoir des notes qui soient dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire qu'ils risquent pas de les recaler. Les mangakas ont un pouvoir secret, en fait. Ils utilisent des assistants. Après tout, le local de Mashiro et Takagi, eh ben, c'est l'ancien atelier de l'oncle de Mashiro qui était dessinateur, qui lui-même employait deux assistants. Il faut donc désormais penser le dessin en deux éléments importants. Excusez-moi, en possibilité pour d'autres de le reproduire. Bah oui, il s'agit quand même que d'autres puissent prendre la suite sur vos crayonnés. En laissant des éléments où ils sont plus faibles, par exemple les décors ou les véhicules, savoir les déléguer, donner des indications comme les aplats noirs ou les trames. Bon, il est étonnant que les deux lycéens n'utilisent pas des logiciels métiers comme Manga Studio, qui est une espèce de Photoshop extrêmement pensé pour justement faire de la bande dessinée et principalement du manga, avec des trames et tout le reste, et des notions de calque vraiment très avancées.
Et des notions de perspective 3D pour des objets à placer dans des
cases. Oui, puisqu'on peut prendre un en 3D, le plaquer dans le logiciel en fait, et ensuite faire rapidement un ancrage dessus, ou laisser le soft faire un ancrage à peu près comme le vôtre. Donc leur atelier est plus un studio, et donc leur nouveau responsable éditorial, Miura, va devoir recruter un chef assistant qui connaît les ficelles et de la production en flux tendu, de ce fordisme de la bande dessinée, même si on reste quand même dans un métier qui est purement artisanal. Si le produit est trop formaté, il perdra forcément très vite les lecteurs, car il n'aura plus d'âme. Ensuite, c'est toute la pression du responsable éditorial que l'on sent derrière, celui qui valide les scénarios, qui gère les budgets, recrute vos assistants, et surtout fera tout pour que vous teniez les délais de livraison. Il est capable d'être un très bon pote, tout comme d'être un despote. Et enfin, il y a donc le fameux sondage hebdomadaire, celui qui détermine si la série plaît aux lecteurs, s'il faut mieux la mettre en avant ou si on la relègue en fin de magazine. Et préparer sa fin.
Nous avons 4 bleus, bravo, vous continuez en deuxième semaine.
Inutile de vous dire qu'il y a de quoi se faire des nuits blanches, rendre toutes les planches dans les délais, estimer quelle va être la popularité de la série dans les 4 semaines, et donc modifier en conséquence les scripts du Gohou supposés du public.
Mais ils sont au lycée ?
Et ils sont toujours au lycée.
Oh là là.
Et tu les vois, et les cernes, et des fois, ça continue à écrire les débuts pendant les cours. Bon, ok. Sans compter que toute la promotion des copains, concurrents, elle est en place. Ils sont pratiquement tous, eux aussi, rentrés dans la revue, ce qui rend le classement encore plus difficile devant tant de nouveautés au sommaire. Et surtout, il y a le doute. Comment peut-on plaire avec une série d'enquêtes policières quand le lectorat aime surtout les histoires de baston ? Faut-il avoir foi dans la série ou écouter ce que l'on croit être ce que les lecteurs aiment ? Qui plus est, au lancement de la série, le responsable éditorial de la série a changé. Et si le nouveau responsable éditorial Miura montre vraiment un enthousiasme absolument enjoué, est-ce que les lecteurs sont sûrs qu'ils comprennent bien les enjeux de la série ? Qu'avant leurs 18 ans, ils veulent créer une série majeure qui puisse être adaptée en dessin animé alors qu'ils sont encore au lycée. Mashiro et Takagi se rendent compte que publier une série de bandes dessinées, qui plus est dans la plus grande revue de bandes dessinées du monde, c'est une petite entreprise qui se monte, et par là même qu'il faut raisonner en manager, croire en sa production, car le doute peut vite pourrir l'ambiance des 25 mètres carrés occupés par 6 personnes, le non-respect du lecteur par une sortie, par la petite porte des éditions Kodansha. Bref, ils sont très loin d'avoir, réussi leur pari. Bakuman, le tome numéro 5, de Tsuguni Oba et Takeshi Obata, c'est chez Kana, et une fois de plus, c'est une plongée assez stupéfiante, dans toute l'industrie de la bande dessinée au Japon, et c'est, encore une fois, incroyablement prenant et intéressant.
Moi je pense que...
Non mais je dis ça, c'est parce que je vais me moucher et c'est pas très...
Mais j'ai vu que tu voulais que j'enchaîne. Ouais, super. Donc, c'était juste pour dire que oui, je vais lire avec attention ce tome 5, mais S'il y a de bien par rapport à ceux qui connaissent déjà leur travail sur Death Note, c'est que c'est aussi bavard que sur Death Note. Tu retrouves forcément le caractère design des personnages, mais c'est beaucoup plus léger en fait. En plus, c'est vraiment. Ils s'inscrivent directement dans le manga avec des personnages de lycéens. Donc, c'est. En plus, ils ont pris l'archétype par excellence. Donc, le gars tout timide, qui a une relation platonique avec sa nana, il se parle pas. Non, mais on se parlera, on se fera des bisous une fois qu'on aura réalisé notre rêve.
Est-ce qu'ils vont tenir le pari ? Ah, bonne question. Voilà.
Ah, je pense pas qu'ils vont sauter dessus comme ça, hein, mais bon, on sait jamais.
C'est un éditeur de Lille qui est spécialisé dans le jeu vidéo et qui s'est lancé avec succès dans la bande dessinée et qui importe maintenant des séries de l'étranger. Et justement, une de ces séries, c'est un manga. Thomas.
Voilà, donc ça s'appelle La Paire et le Sabre. Alors, si je vous dis La Paire
c'est
et le Sabre,
là.
Mais qu'est-ce que ça peut bien être cette paire? Oh, c'est marrant, il y a une femme avec des gros lolos.
105D, voire E, là, je sais pas comment qualifier.
Allez, si vous voulez, vous rincez l'œil. Alors, c'est pas la peine de feuilleter rapidement. Enfin, vous verrez, même en feuilletant rapidement, vous tomberez sur les gros seins, puisqu'il y a des poitrines dénudées à chaque chapitre, hein, donc vous pouvez pas les louper. Ah bah tiens, Xavier qui court pour aller voir ça. Du ski qui est tombé dessus d'ailleurs. Alors, sous l'ère Edo, sous le règne des Tokugawa, le clan Manyu a œuvré dans l'ombre pour créer les Sacripants. Un monde régi par la taille des seins. Une grosse poitrine apporte gloire et richesse, alors que des petits seins contraignent au déshonneur et à la pauvreté. Mais la cadette du clan Manyu, Dame Shibo, a dérobé le parchemin secret sur l'art d'avoir une grosse poitrine et va mettre un point d'honneur à torpiller ses mœurs absurdes. Alors, il y a aussi une dimension un peu fantastique dedans, puisque il s'agit de techniques d'arts martiaux qui visent aussi dans la technique numéro 1 du manga qui est utilisée par l'héroïne, c'est de punir les gens. Alors, il n'y a pas de meurtre dedans, sauf que tu enlèves les seins de quelqu'un et tu les absorbes. Sachant que la poitrine de la nana est très très grosse au début, tu te dis, mais jusqu'où ça va aller? Voilà. Donc, alors c'est marrant parce que tout est régi sur la taille des seins. C'est-à-dire que une nana qui a des gros seins, tout le monde va se retourner vers elle, elle a le bonheur, elle est riche et tout. Et le plus grand déshonneur, c'est comme dans Saint Seiya, quand les nanas, elles perdent le masque, tu sais, elles disent, c'est comme si vous m'aviez violé, c'est pareil. Bah là, en fait, il y a plein de nanas qui perdent leur sein et ils deviennent tout petits. Alors, au début, ils t'expliquent pas trop. Tu te dis, tu vois le gars qui a un sabre et tout, il dit, ouais, je vais te punir et tout. Et puis après, ça passe à un autre truc. Tu dis, c'est bon, elle est passée, elle est morte. Et après, tu retrouves la nana, mais elle a plus de sein. Hein ? Et après il t'explique que c'est une technique pour enlever les seins d'une nana. Mais alors l'héroïne, c'est la seule à récupérer les seins qu'elle vole, mais il y en a plein qui peuvent enlever les seins mais ils les récupèrent pas. C'est aussi comme les, tu sais, les, enfin, bref. Donc
les voleurs de zigounettes en Afrique noire.
Voilà. Donc le truc, évidemment.
Non, enfin un petit truc un petit peu léger, hein, quand même.
Or évidemment il y a du fanservice. Mais ça, c'est énorme, c'est abusé tellement, c'est du fanservice. C'est-à-dire que chaque petit micro-chapitre de rien du tout, c'est un prétexte pour que les nanas, elles aient des t-shirts qui se déchirent, les tuniques qui sont... à un moment donné, il y a une élection de Miss T-shirt mouillé, alors les nanas, elles sont pas au courant, tiens, on va te mettre de l'eau et tout, mais pourquoi ? Mais pour que ça pointe. Ah ouais, oh, regardez, ça pointe. Alors voilà, c'est que des trucs comme ça. Tu dis, mais en plus, tu rigoles, pas parce que c'est... foncièrement, enfin c'est rigolo, mais c'est juste que tu rigoles aussi parce que mais non, t'as un des énormes clignotants qui a dit attention, vous allez voir une poitrine dans 3 pages. Voilà, donc c'est super léger, c'est pour ça vole pas très haut non plus en tant que manga, mais bon.
Non, mais pas possible.
Alors, vu la taille des nibards, je me demande si c'est pas aussi par feignantise de la part du dessinateur
pour remplir les cases.
Pour remplir les cases, parce que là c'est vraiment protubérant. Et il y en a, mais, c'est vrai, pas mal. Hein.
Bon, on va avoir des emmerdes.
Et en plus, ce qu'il y a de rigolo, c'est
rendez compte de l'heure qu'il est.
Moi, je trouve ce qu'il y a d'intéressant, c'est que alors qu'il y a des gros seins, des filles de partout, c'est quand même, enfin c'est un manga pur shonen et ça a la technique des mangas de d'arts martiaux, c'est-à-dire c'est pas du tout grisonnant à la Sailor Moon, tu vois, avec des dégradés de partout, complètement con, complètement vide ou nul. C'est en fait t'as vraiment une identité graphique assez forte avec des noirs très présents et moi je trouve c'est
voilà, là il est en train d'essayer de justifier artistiquement la soirée de jeudi avec le regard suspicieux de Mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, voilà. Donc, je vais rappeler, enfin, je vais annoncer les références puisque je m'aperçois qu'on ne les avons pas annoncées. Donc, ça s'appelle La Paire et le Sabre, tome 1 par Hideki Yamada. Et c'est édité chez Ankama Edition sous le label.
Non, allez hop. Non, allez, on range les loloches, allez, voilà. Oh, allez, voilà. Hop,
hein, vous êtes pas drôle, hein.
Non, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure.
C'est vrai. Alors.
Tu m'as aimé, quand même, du massacre gratuit avec du sang qui gicle et tout ça. Oui, on peut.
Ah, bon, très bien. Alors, on va enchaîner, ça tombe bien, avec Doggy Bags. Et Doggy Bags, c'est un.
C'est prêt à emporter pour finir quoi?
Voilà, alors je vais justement demander à Dusport de me lire avec ton accent, tu sais, de voix rocailleuse. ce qui a entouré là, les deux rectangles là.
D'accord. Alors tu me fais le titre là, quand même.
Oui, alors ça s'appelle Doggy Bags, c'est le tome 1 et c'est fait par Run, Florent Maudou et Guillaume Saint-Gelin chez Angatien.
Un triple programme pour une orgie d'hommage au cinéma qui tâche. Dans un déluge de violence garantie 100% graphique.
Attends.
Fresh Flesh and Hot Chrome. Une motarde échappée d'un gang de bikers loups-garous tente de fuir dans une course-poursuite sanglante. Masiko, la mère de Petit Panda, futur Chong Mao de la série Freak Squeal, aux prises avec les différentes familles des triades de Hong Kong dans un festival de massacres à l'arme blanche et de duels déshabillés.
Alors c'est pas, même pas une phrase, il n'y a pas de verbe.
Ouais, c'est vrai.
Mort c'est un pitch. Ou
t'as,
vif.
T'as écrit ça comme moi. Hein, c'est...
Mort ou vif.
Non,
en plein
le,
désert.
Refais-le avec des couilles.
Mort ou vif. En plein désert, près de la frontière américo-mexicaine, l'officier de police Curtis Savage piste un dangereux assassin. La chasse va être crade et suffocante.
Merci. Alors voilà, vous l'aurez compris.
Tu peux cracher de la bio, ouais.
Donc c'est un album à sketch, donc il y a trois petites histoires. Et c'est un hommage aux films d'exploitation des années 70 et aux BD, on va dire, de monstres et de SF des années, 5, des années 50-60. Et alors dedans, vous avez donc les trois aventures qu'on vient de citer, mais aussi vous avez plein de petites pages avec plein, enfin pas vraiment des gags, sont par exemple des micro-publicités, des micro-coupons à découper. Par exemple, si vous voulez vous aussi vous acheter le dernier Magnum machin, ben envoyez ça à telle production pour une BD de qualité, exigez le label 619. Alors il y a plein de petites micro-pubs. Alors évidemment, les plus observateurs reconnaîtront qu'il y a même, alors ce diable d'Ancestral Z a réussi à s'immiscer dans l'album. Il a mis un micro strip à lui dedans. Vous avez avant chaque bande dessinée une présentation de chaque auteur à la manière d'un de personnages de jeux vidéo de combat. Donc il pose avec un fond noir et puis à chaque fois il y a une arme qui est associée à chaque auteur, à chaque histoire. Donc il y a les Noshaku pour la partie sur les triades, vous avez le gun du shérif à la fin, et vous avez aussi les blousons du gang de bikers du début. Donc ça vous explique à peu près qu'est-ce que est-ce que ça s'enraye une arme comme ça, qui c'est qui l'a inventé, en quelle année elle est sortie sur le marché, les Noshaku pareil. Alors c'est pas vraiment les Noshaku, je pense que ce sont des armes blanches complètement frappadingues avec des lames de partout. Et pareil pour les blousons. Alors c'est marrant parce qu'on sent les auteurs qui se sont fait plaisir, vraiment dans le délire, mais vraiment à la Grindhouse quoi. C'est vraiment ce qu'avait fait Rodriguez et Tarantino avec les pellicules qui sautent. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller sur le lien de la chronique, puisque j'ai mis le lien vers la bande-annonce. Ils ont fait une bande-annonce vidéo en fait pour cet album. Et c'est vraiment dans la pure tradition de Grindhouse. Alors il y a une voix off, je crois d'ailleurs que c'est le gars qui double Al Pacino, très rocailleuse comme ça. Et on voit les trois auteurs qui se mettent en scène. Alors il y a Run qui est
extrêmement fun d'ailleurs, hein, comme bande-annonce. Là ils sont vraiment éclatés à fond. Voilà. C'est assez rigolo, oui.
Et donc voilà, vous pouvez prendre votre plaisir à fond les manettes. Donc la première histoire, pour moi c'est la plus faible sur les loups-garous bikers. Bon, l'histoire est un peu faible, mais sinon graphiquement ça c'est correct. La deuxième sur les triades, bon ça là, pour ma part c'est la meilleure. Si vous aimez l'auteur de Freak Squeal, là c'est vraiment les origines de la mère de l'héroïne de Freak Squeal. Ben ça se tient, il y a les chorégraphies de combat qui sont super bien en fait aussi, il y a une histoire d'amour, il y a, on sait qu'il sait très bien dessiner les nanas aussi, donc on peut se rincer l'œil aussi. Et la troisième, Mort ou Vif, c'est vraiment la pure tradition des routes interminables désertiques avec les criminels pourchassés par des shérifs. Donc voilà, c'est un bel objet, ils ont soigné le truc, ils ont mis des espèces de simili de papier un peu déchiré, comme si c'était un vieil album que vous aviez
retrouvé. Non, ça fait comics, hein, vraiment à fond.
Ouais, hein, ouais, c'est ça.
À fond, quoi.
Donc voilà, Doggy Bags, tome 1 par Run, Florent Modou et Guillaume Saint-Gelin chez Ankama.
Alors il y a même le petit truc du Comic Code, tu sais quoi, qui était sur les...
ouais, le petit macaron.
Oui. Le petit macaron, et qui en fait a disparu, c'est fini, ça n'existe plus.
C'est fini, c'est terminé, les derniers à l'avoir appliqué, c'était Archie.
Voilà, Archie était le dernier, DC et Marvel avaient déjà largué...
Ça s'est terminé le mois dernier, et voilà. comme le héros a une histoire homosexuelle, voilà...
Sauf que si tu regardes, si tu regardes bien le macaron, c'est le même que sur sur Mutafocas, il y a marqué disapproved by the Comic Code Authority.
Radio FMR, 12h21 et 10 secondes, c'est le supplément week-end, nous sommes le 12 mars, et on va revenir 60 ans en arrière.
Hold me tight, the moon is so bright, tonight is so right for love. Now's the time to say you'll be mine, tonight is so right for love. One by one the stars appear, they twinkle in your eyes. So near to paradise, this could be the kiss to unlock heaven's door. That magic hour of bliss that we're both ready for. I love you more and more. Well, we could fly right up to the sky, to the things we've been dreaming of, and how real they would seem. A midsummer night dream. Can't you see that tonight? So right, oh love. Would seem a midsummer night's dream. Can't you see that tonight? So right for love. Hold me tight, the moon's so bright.
Les blues par Elvis, et donc derrière il y avait de l'accordéon, il y a une raison.
Ouais, c'était le morceau Wooden Heart, donc tiré de la bande originale de G.I. Blues. Et Wooden Heart est un morceau original de Bert Kaempfert, qui était un chef d'orchestre, enfin disons qu'il a commencé dans les années 50.
C'est le Fred Rabold un peu avant, quoi.
Voilà, c'est ça, t'as tout compris, t'as exactement tout compris, c'est exactement ça. Et donc, qui avait sorti ce tube, qui était vraiment hyper connu, qui passait dans toutes les radios en Allemagne. Et Elvis, lui, aimait bien reprendre des morceaux comme ça, quoi qu'il il écoutait des morceaux, quel que soit le style. Et si ça lui plaisait, il disait, ah tiens, on pourrait faire cette adaptation, et tout ça, ce serait pas mal. Et donc, il fait cette adaptation d'après ce morceau de Bert Kaempfert. Alors, Elvis, deuxième partie. Alors, c'est marrant parce que quand j'avais fait la chronique du premier tome, c'est-à-dire Le Temps d'Innocence, il y a 15 jours, Le Temps d'Innocence, Elvis Presley, Lost Highway, j'avais dit, bon, je vois pas tellement l'intérêt de poursuivre, c'est-à-dire d'aller au-delà de 58, parce que, bon, dans le premier, qui va de 1935, l'année de sa naissance, jusqu'en 1958, eh bien, on a le début de carrière d'Elvis, mais jusqu'au moment où il rentre à l'armée, c'est-à-dire, il commence à être hyper célèbre, même au-delà des États-Unis. Et donc après, bon bah tout le reste en fait, c'est la production. On entretient le mythe d'Elvis en fait. Hein, c'est uniquement l'entretien du mythe d'Elvis. Mais ça vaut quand même le jus parce que c'est Peter Guralnick qui le raconte.
Et le bouquin est impressionnant. Là, à vue de nez, il doit faire dans les 650 pages.
T'es loin du compte. Il fait 800 pages quoi.
D'accord.
Il fait 150 pages de plus que le premier. Bon, c'est normal. Ça couvre la période qui va de 58 jusqu'à 77. Donc
ah oui,
une période
donc
un peu plus longue.
Oui, donc sa déchéance, son retour,
voilà,
plus
c'est ça.
Sa période
il y a
la Las Vegas. Ouais.
Toute la période professionnelle, enfin bon...
Et puis c'est un pavé, lui, ça grossit.
Comment ?
C'est un pavé, lui, ça grossit.
Ouais, ouais.
Alors, oui, bien sûr. Vous pouvez pas.
Alors, comme il y a 15 jours, hein, bon, bah, je vais quand même pas le répéter, il y a vraiment tout dedans. Hein, c'est-à-dire qu'on suit vraiment pratiquement jour par jour tout ce qu'Elvis fait, tout ce qui se produit autour de lui, comment sont magouillées ses histoires et tout. Mais là, eh bien, on est encore plus dedans parce que c'est à partir de là que débute vraiment la carrière cinématographique d'Elvis, dont je vous avais déjà fait un topo il y a un an ou deux ans, hein, me semble-t-il, hein, toute la flopée de films qu'il a pu faire. Et en fait, ça faisait partie de la stratégie de vente du colonel Parker, qui s'avère dans ce bouquin, qui n'est pas montré comme étant un enfoiré qui piquait 50% des bénéfices parce que le contrat qu'ils avaient, et qui n'était pas un contrat écrit, hein, c'était une poignée de main, hein, il n'y avait pas de papier officiel qui liait Parker à Elvis au début de leur carrière, au début de leur arrangement. Hein, et donc c'était 50-50, quoi, c'est-à-dire, bon, bah ok, 50 dans la poche de Parker, 50 dans la poche d'Elvis, sauf pour les tournées. Mais de tournée, il n'y en a pas eu. Elvis n'a pas joué en concert du moment où il rentre à l'armée jusqu'au show de Las Vegas.
De 68, si je me souviens. Décembre 68.
Voilà, c'est ça. Il fait quelques petits shows comme ça quand même à Las Vegas dans l'année qui précède pour se remettre un petit peu en train. Parce qu'Elvis commence à en avoir ras-le-bol de jouer dans des films. On disait que c'est vraiment des daubes et qu'on l'utilise vraiment pas pour ce qu'il est. Lui, ce qu'il aimerait avoir, c'est un vrai rôle, un bon rôle et tout. Lui, ses modèles, c'est bien entendu Marlon Brando et James Dean, hein, qui sont quand même un petit peu meilleurs, on va dire, au niveau acteur, quoi. Il y a pas de problème, quoi. Et lui, ce qu'il cherche, c'est un bon rôle qui lui permette justement de montrer qu'il peut faire autre chose que chanter le rock'n'roll et être l'idole des jeunes. Et ce rôle, il le trouvera jamais. C'est pas la peine. Bon, on laissait tomber, il y en a pas. Hein, mais bon, bah, il l'a cherché. Et c'est quand il s'est aperçu que de toute façon, et l'industrie cinématographique et le colonel Parker ne le laisseraient pas faire ce genre de truc-là. Déjà, dans tous les films d'Elvis, il était interdit qu'il lui arrive quelque chose de dégueulasse. Il lui était interdit de commettre des actions qui auraient été mal vues.
Préjudiciable à son image, bien lissé.
Il ne pouvait pas mourir, rien. Enfin bon, disons, il était coincé. Il y a pas de problème. Et puis bon, on s'aperçoit quand on regarde bien ces films bien dans le détail que s'il y met un petit peu du sien au départ, parce que il apprend le métier et parce que il côtoie des gens qui sont des vrais professionnels, parce que bon, dans tous ces films, bon, ben il y a quand même, on va dire une caution professionnelle apportée par des acteurs et des actrices professionnelles qui eux sont dans le métier, hein, donc connaissent, ont appris les bases. Lui, bon, ok, on l'a catapulté du jour au lendemain sur un plateau de cinéma. Vas-y, démerde-toi. C'était pratiquement ça. Tu lis le scénario, puis après tu te démerdes, quoi. T'essayes de faire, quoi. Et bon, s'il y arrive un petit peu au début, c'est parce qu'il change pas trop sa personnalité. On lui demande d'être Elvis à travers un personnage, donc bon, bah, ça passe. Mais par la suite, bon, bah, il laisse carrément tomber. Il y a carrément des films où on voit qu'il se fout carrément de son rôle. Il n'a rien à. C'est carrément pour lui un boulet de faire ce genre de truc. Seulement. Le truc, c'est que ça lui permet de vivre, ça lui permet d'assouvir toutes ses passions, à savoir pour pouvoir craquer du fric comme n'importe quel débile qui, d'un seul coup, se retrouve à la tête d'une fortune énorme. Ça lui permet de faire plein de cadeaux, à tout et n'importe quoi. Alors, les exemples les plus énormes, quand même, qui sont cités dans le bouquin, bon, c'est sur la fin de sa carrière, sur la fin de sa vie, c'est quand il rentre dans un magasin, le concessionnaire Cadillac de Memphis, pour aller acheter des voitures à sa garde rapprochée, ce qu'on appelait la Memphis Mafia, c'est-à-dire ses vieux potes d'enfance et tout, qui s'occupaient plus ou moins de lui, qui avaient différents rôles, qui étaient appointés par son père à la semaine pour s'occuper, toi tu t'occupes de ceci, toi tu t'occupes de cela, enfin, ils avaient chacun un petit rôle et tout, mais ils passaient également beaucoup de temps avec Elvis, pas à se défoncer, mais enfin, à faire les cons, draguer les filles, enfin, avoir un petit peu le même style de vie qu'Elvis. pour que Elvis ne soit pas tout seul, quoi. En fait, c'est la solitude qui le faisait le plus chier, en fait, Elvis. Et c'est pour ça que on retrouve très peu de moments où Elvis se retrouve seul. Les seuls moments où il est seul, mais tout seul, dans sa chambre, c'est quand il commence à avoir une espèce de crise de mysticisme. C'est pas vraiment une crise de mysticisme, parce que ça va durer quand même vachement longtemps, dans les années, hein, où il commence à croire un petit peu à l'au-delà, où il recherche l'essence même de l'existence, enfin des problèmes existentiels, vraiment, où on se dit, bon, bah, c'est pas Elvis, ça. Si, c'est quand même Elvis, c'est quand même une partie de sa vie. Bon, ça a complètement interféré par rapport à ce qu'il représentait par rapport au public, mais lui, bon, bah, il s'en foutait. Il lui dit, moi, je suis Elvis, je fais ce que je veux. Alors, j'en reviens à ce truc-là, où il va justement commander des voitures. Il dit, ah tiens, ça, c'est le dernier modèle de chez Cadillac. Ok, vous m'en mettez 11. Et hop, il commence à signer le chèque. Et dans le même moment, il y a un client qui est dans le magasin Cadillac, qui est là, qui regarde également les voitures. Il dit, elle vous plaît celle-là? Ah bah allez, rajoutez-en une douzaine. Il dit, rajoutez-en une sur la facture, il n'y a pas de problème. Et il paye une bagnole à Pékin qui est là, qui a la bonne idée d'être dans le magasin au même moment. Tu vois, ça c'était Elvis. Ou alors, bon bah ok, c'était les bijoux offerts à chaque femme de chaque membre, ou chaque petite amie de chaque membre, à l'occasion de chaque Noël, des trucs comme ça. Enfin bref, ce caractère dépensier d'Elvis, d'ailleurs, vers la fin de sa vie, il lui cause quelques tracas, parce que bon bah, tout le monde s'arrache les cheveux, tout le monde se dit, il va courir à sa perte, il commence à se lancer dans des dépenses folles, enfin bon, il a un jour la lubie d'acheter un ranch au Texas, donc il achète son ranch, et ensuite il le remplit avec des chevaux, enfin bon, il fallait que tout soit arrangé selon ses désirs, donc ça coûte bonbon, mais bon, bah, ok, lui il s'en fout, il y a le fric qui tombe et tout, au niveau cinéma, c'est lui qui commence à faire cartonner au niveau des cachets. Hein, d'ailleurs, tous les autres qui jouaient avec lui dans les films étaient un petit peu dégoûtés, parce que bon, c'était quand même la vedette principale du film, d'accord, mais il touchait des cachets qui étaient absolument énormes pour l'époque, ce qui lui a permis de bien vivre de par la suite. Voilà, ça c'est une des facettes qui est révélée dans le livre. L'autre facette, qui est déjà un petit peu évoquée au départ dans le premier tome, eh bien, c'est son accoutumance aux drogues. Alors là, le sujet est très complexe, parce que au départ, avec les témoignages des personnes qui étaient avec lui, d'actrices, d'acteurs, qui disent oui, je savais qu'Elvis prenait quelques petites pilules comme ça pour se maintenir en forme, et après il lui fallait des pilules pour pouvoir dormir. De la dexétrine entre autres.
Oui, il est devenu dépendant médicament.
Mais c'est vrai que, et c'est vrai dans l'histoire de toutes les drogues, c'est-à-dire qu'il y a toujours une période de latence, on ne savait pas trop ce que pouvaient être les excès par rapport à cette drogue. Et donc, au départ, bon, bah, ok, c'était considéré comme un médicament, donc c'était pas considéré comme une drogue au terme où on l'entendait à l'époque, c'est-à-dire oui, non, c'est drogué, ceux-là qui fument du hashish, ceux-là qui prennent de l'héroïne. Ça, c'est de la drogue. Mais le fait de se bourrer de cacheton, non, c'est pas se droguer, ce n'est pas être.
C'est faire tourner l'industrie.
Voilà, c'est ça, quoi. Mais seulement, le problème, c'est que Elvis commence à vraiment abuser à fond les manettes et.
Ça fait mauvais ménage avec l'alcool, je suppose.
Non, justement, il buvait vraiment pas beaucoup. Il est cité une seule expérience au LSD. Une seule, il n'a jamais pris de drogue dure, c'est-à-dire il n'a jamais pris d'héroïne comme ça. Mais à la fin de sa vie, il prend quand même de la cocaïne, hein, ça c'est à signaler. Il y a beaucoup de témoins qui déclarent qu'il commence à avoir de sérieux sautes d'humeur, qui commence à être incontrôlable à certains moments et tout, ça c'est typique de la cocaïne de toute façon, mais en plus avec les autres dopes. Et quand on arrive à la fin où vraiment il est en très mauvaise forme physique, où il fait des tournées après l'autre, hein, mais attention, des tournées qui rapportent, hein, c'est-à-dire quelque chose comme 2 millions de dollars pour deux semaines de tournée dans les années 70, c'est quand même assez énorme comme pognon. Bon, on se dit, bon, ça va. Et les gens de l'entourage sont complètement effarés devant les concerts pourris qu'il fait. Il oublie les paroles, il commence un morceau, il se plante, ah là-bas, on reprend et tout, quoi. Et la réaction du public qui est là et qui laisse tout passer, qui est bouche bée devant le king, devant l'idole, et qui laisse passer vraiment toutes les petites merdes et tout, alors que les gens qui sont autour, qui sont un petit peu plus professionnels, les musiciens de son orchestre, le chef d'orchestre qui est chargé des arrangements, qui disent mais c'est carrément nul, mais c'est de la merde et tout, et puis la réaction du public est quand même positive, c'est ça qui est vraiment étonnant, sauf vraiment sur la toute fin, c'est-à-dire les derniers concerts quelques mois avant son décès, où là vraiment, ok, tout le monde se rend compte que même Elvis se rend compte que c'est vraiment de la dope, et il y a même un concert où le public n'applaudit pas à la fin.
Et aïe.
Là,
ça fait mal.
Là, ça fait très mal. C'est une des seules grosses. C'est là. La grosse claque que prend Elvis avec la mort de sa mère d'ailleurs et la séparation avec Priscilla Presley. Alors on est absolument effaré par la quantité phénoménale de pilules et de différentes médications qu'Elvis pouvait prendre. À tel point que après sa mort, il y a une autopsie qui est réalisée. Et plusieurs autopsies sont réalisées d'ailleurs parce que
Elvis n'est pas mort.
On décide. C'est évoqué dans le bouquin, ça c'est marrant. C'est lui-même qui l'évoque, qui disait, tu vois, à un moment, j'en ai tellement marre de cette vie que je pourrais très bien me barrer et aller partir incognito, je sais pas, en Amérique du Sud ou n'importe où et tout, parce que j'en ai marre. Enfin, c'est-à-dire que le public puisse continuer avec mon image, avec tout ce que j'ai déjà produit de bien et tout, mais la célébrité, je commence à avoir ras le cul, donc si je pouvais simplement dégager, mais rester en vie, quoi. Et de toute façon, le public continuera à m'aimer, il n'y a pas de problème et tout. Parce que il y a surtout cette histoire de reconnaissance du public, c'est ce qu'il a toujours recherché, et c'est ce qu'il a toujours fait carburer d'ailleurs, c'est la reconnaissance de son public et l'osmose qu'il pouvait avoir avec son public. Et d'ailleurs, c'est un des leitmotifs dans les deux tomes du livre, c'est que tous les gens qui l'ont côtoyé, tous les gens qui ont pu travailler avec lui au niveau musical, qu'ils soient de son côté, c'est-à-dire que dès le départ ils aient dit « Oh, Elvis, trop super cool, moi j'ai flashé quand j'ai écouté Heartbreak Hotel », comme Keith Richard quand il écoute Heartbreak Hotel à la radio tout petit et qu'il dit « Putain, c'est ça que je veux faire ». Hein, c'est le truc qui décide de sa carrière. Mais même des gens qui arrivent, qui sont propulsés par la maison de disques, par le colonel, pour faire travailler Elvis et tout, qui dit ouais, moi j'étais plutôt fan de jazz à l'époque et tout, moi Elvis pour moi c'était de la variette, quoi, c'était rien à foutre. Mais ils ont tous été étonnés, ils ont tous flashé sur la façon qu'avait Elvis de chanter, sur la façon qu'il avait d'interpréter des textes qui n'étaient pas de lui. Hein. Alors bon, c'est assez rigolo aussi, c'est de voir comment il a choisi ses morceaux. Des morceaux qu'on connaît maintenant, bon, pas forcément que des bons morceaux. Il y a également eu pas mal de blues, des bluettes, des ballades, enfin bon, de tout et n'importe quoi. Il y a eu, mais la façon dont c'était choisi, la façon dont il rentrait en studio, comment il enregistrait les trucs, le nombre de prises pour chaque morceau et tout ça. Alors là, bon, on tombe un petit peu sur le cul. Alors, en même temps, il y a une évolution technologique dans la technique d'enregistrement qui est aussi décrite. Ça, c'est aussi assez marrant parce que des gens qui s'habituaient comme ça aux vieux 4 pistes, voire 2 pistes des années 50, qui se retrouvent sur un 8 pistes ou 16 pistes au début des années 70, et les mecs sont là, ah bah non, c'est pas possible, les producteurs, bah non, c'est pas possible, il y a trop de pistes là, qu'est-ce que tu veux faire et tout, quoi.
Quand tu penses que par exemple les Beatles ont travaillé en 4 pistes mais en n'utilisant que 3 puisque la 4ème était dédiée au mixage final,
et que t'as un son comme ça qui sort et tu te dis, ouais putain quand même, ou que tu sais que tous les enregistrements Sun sont quand même parmi ses meilleurs, alors que la table de mixage de Sun, c'est un vieux truc 4 pistes que Sam Phillips avait acheté à la fin des années 40. Donc tu dis c'est quand même relatif, il y a pas de problème. Bref, c'est vraiment le bouquin sur Elvis qu'il faut avoir, qu'il faut lire, quoi, parce que là vraiment il y a je passe plein de trucs parce que sinon on pourrait y rester des heures sans problème, mais c'est vraiment le truc énorme. Et vu le travail qui a été effectué par Peter Guralnick, de toute façon, il y a pas de problème, il allait chercher vraiment dans les tréfonds, il allait interviewer un nombre incroyable de personnes, il allait se taper toutes les revues de presse de tous les quotidiens pratiquement qui parlaient d'Elvis et tout. Bon, c'est un boulot énorme, hein. Et la preuve, c'est que si tu regardes ce qui reste du bouquin là, quoi, là j'en suis à la dernière page, tu vois, ouais. C'est la dernière page, tout ça c'est les notes, tu vois.
Oh putain,
ok, ouais. Enfin bref, pour terminer,
ouais, il était sérieusement documenté, quoi.
Voilà, c'est ça, quoi. Et bon, et si Guralnick, est quand même un mec qui a grandi avec Elvis, donc il y a pas de problème, il aime Elvis, mais pas sans concession non plus, hein. Il est quand même assez mitigé sur certains sujets, il n'y a pas de problème. Hein. Sa conclusion est très courte, d'ailleurs je vais vous la lire, hein, c'est à la fin du bouquin. C'est très court, hein, il n'en fait pas des tonnes de toute façon. Quoi. Au regard des faits et avec tout ce que nous savons aujourd'hui, il est important d'écouter sans s'encombrer de préjugés si nous voulons entendre le message d'Elvis. L'expression sans barrière d'émotion longtemps réprimée, l'abandon à une vulnérabilité culturellement désavouée, la lutte farouche pour sa liberté. Elvis Presley s'est peut-être perdu, mais même dans ses moments les plus sombres, il conservait toujours un peu de cette transparence innocente qui avait fait la différence dès les premiers jours, chez l'homme comme dans sa musique. Plus que tant d'autres, il était conscient de ses propres limites. Sa foi a été mise à l'épreuve par la reconnaissance de sa chute brutale depuis les sommets qu'il s'était promis d'atteindre. Mais en dépit de ses doutes et de toutes ses déceptions, en dépit du dégoût de lui-même qu'il ressentait si souvent, en dépit de la désillusion et de la peur, il continuait de croire en un idéal démocratique et de transformation rédemptrice. Il ne cessait de rechercher ce lien avec son public qui le suivait fidèlement, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il cherchait à être. Là, bon, ça va, quoi. Il n'y a rien de plus à dire. Donc, je rappelle Elvis Presley de Peter Guralnik chez le Castor Astral. Le tome 1, c'est Le Temps de l'Innocence, 1935-1958, Lost Elvis Presley, Lost Highway. Le deuxième tome, Au Royaume de Graceland, 1957, Elvis Presley, Careless Love.
Radio Éphémère, c'est le supplément week-end. Pan, 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 pan.
Cinéma, 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 cinéma. Cinéma, 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 cinéma.
J'avais souffert pour le trouver. Ah, je te raconterai ça en antenne.
Parce qu'on m'a demandé cette semaine. Ah oui, Chicha, c'est cinéma. Et oui, mais savais-tu que c'était Michel Berger qui l'avait composé?
Jonas.
Michel Jonas?
Ah oui.
T'es sûr?
Oh putain, sûr et certain.
Je suis toujours fourvoyé.
Ouais, c'est Berger. Plus le style Jonas.
C'est plus Jonas, je te le montre si tu veux. J'ai les références.
Bon, d'accord, c'est Jonas, ok. Bon, mais super. Alors. C'est un boss, Michel, quand même.
Deux films qui ont percé aux Oscars. Et deux films qui le méritent très largement.
Oui, deux films que tu as vus d'ailleurs, donc tu pourrais intervenir dans les chroniques. Donc
ah on ouais, va... C'est pour ça qu'on n'a pas fait Mission Impossible. Bon, je déconne.
Tout à fait. Donc,
je déconne.
Il s'agit du premier, donc Le Discours d'un Roi de Tom Hooper, qui a recueilli juste la bagatelle de l'Oscar du meilleur film du réalisateur, de l'acteur et du scénario. Je crois qu'il y en a peut-être des Oscars techniques en plus, mais je sais plus. Donc ça c'est principal.
Ouais, il en a eu 4.
Bon mais c'est ça. Tom Hooper donc réalise Le Discours d'un Roi avec Colin Firth, donc lauréat, enfin Oscar du meilleur acteur, Helena Bonham Carter, sœur d'Eric Jacobi, Geoffrey Rush, Guy Pearce, Michael Gambon. Ouais, ça va. Bon. Alors justement, Albert, fils cadet du roi George V, est bègue et souffre de s'exprimer en public. Sa femme tente tout pour l'aider à surmonter son handicap, y compris lui dégoter un docteur australien aux méthodes anticonventionnelles. L'histoire est sur le point de pousser Bertie, le surnom du fils de George V, sur le devant de la scène car son frère abdique peu après la mort de leur père. Le petit détail qui tue, c'est que nous sommes en 1939 et qu'il faut une voix pour s'élever contre le roi Hitler.
Il faut dire que le frère abdique parce que il voulait se marier avec une roturière et qu'il avait quelques sympathies pro-nazies.
Oui, alors le fait effectivement qu'il était avec une américaine qui courait les hommes un peu riches, qui était déjà divorcée, ça c'est largement abordé. Par contre, qu'effectivement il avait des sympathies. Pas que des sympathies envers Hitler, il en était relativement proche.
Ah oui.
Ça, c'est quelque chose qui est juste le temps d'une réplique, qui est juste annoncée, et encore, c'est bien adouci.
Oui, voilà, c'est voilà. Surtout le fait que son frère abdique. Son frère, l'acteur, enfin, le rôle du frère, il n'est pas non plus juste évoqué, c'est quand même Guy Pearce qui incarne son frère. Alors
oui, il n'est pas évoqué, il est présent, le voit annonceur.
Ça explique que ce soit le fils cadet qui accède au trône plutôt que l'aîné, c'est ça.
Et en fait, on voit le parallélisme entre les deux frères, puisque l'un a le charisme et mais pas trop les épaules pour soutenir la royauté, alors que l'autre il a les épaules, il a la tête froide et tout, mais il a pas du tout le charisme, il sait pas s'exprimer, donc c'est un parallélisme entre les deux, et sûrement il y a une petite rivalité au début. Donc moi ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que plein de fois le film aurait pu sombrer dans l'académisme, c'est-à-dire les grands décors, la Bill Westminster, le bureau du Premier ministre, tout ça. Et en fait non, c'est juste que tu vois les décors. Bon, forcément tu peux pas les enlever parce qu'à un moment donné il y a le couronnement du roi, donc on est dans l'abbaye. Sauf que le réalisateur ne perd jamais de vue le fait que en fait il filme un trio, c'est-à-dire le trio c'est Bertie, le docteur, et la voix de Bertie. Donc c'est toujours les discussions en privé ou dans le cabinet du docteur, enfin docteur qui n'en est même pas un, mais on le verra dans le film. On voit des échanges en fait où naît une amitié, c'est plutôt l'amitié avec la voix du futur roi qui est au milieu et qui pose problème. Donc alors tu vois les grands décors et tout, mais c'est toujours intimiste, c'est jamais grandiloquent comme peuvent l'être un peu les films Oscar, on va dire. Et là,
non, justement, il est très 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 en retenue. Il est vraiment étonnant de ce côté-là. Le décorum aurait pu prendre une place importante du film. Et en fait, justement, il y a ce décor qui d'ailleurs a été le décor du cabinet, qui d'ailleurs a été utilisé dans un porno gay après.
C'est pas étonnant.
C'est pas étonnant, voilà. Mais je veux dire, justement, il reste très en retrait parce que on est face à un homme qui sent qu'il va avoir le poids de l'histoire, mais qui sait pas encore comment le prendre. Et de ce côté-là, c'est vraiment très très bien amené, quoi.
C'est bien amené, c'est en creux, c'est en retenue, parce que le film ne montre pas comment le roi va triompher de son bégaiement. En fait, c'est juste le gars qui le suit, lui montre juste comment faire avec et profiter de la situation et comment.
Déjà, il fait le bon diagnostic, qui est peut-être le truc le plus important avant de.
Et oui, parce qu'en plus, le bon diagnostic qu'il fait, puisqu'il dit qu'on ne va pas dire exactement ce que c'est, mais que c'est en rapport avec son passé, en fait, la femme et le roi, ils lui disent juste ah, mais non, mais ça, vous soignez juste la cause. Enfin, vous soignez le résultat et pas la cause. Donc en fait, on sait quelle est la cause, mais ils vont jamais la soigner, la cause. Ils vont juste s'attacher au résultat. Donc c'est pour ça qu'il guérit pas vraiment. En fait, c'est juste qu'il arrive à apprivoiser un petit peu son handicap, mais le handicap, il le poursuit jusqu'à la fin du film. Et le film.
Et après, on sait qu'il a toujours été proche du roi, justement pour l'aider.
Voilà. Donc le principal attrait du film aussi, ce sont les personnages et les acteurs. Bon, les personnages évidemment, avec cette espèce de docteur australien incarné par Geoffrey Rush, qui est pas dans le cabotinage, mais qui est vraiment dans le personnage original, alors que tous les autres sont des hommes d'État, donc il faut qu'ils aient une retenue.
Sachant que le personnage historique était un acteur shakespearien, donc ça joue énormément là-dessus.
Voilà, donc en fait, c'est deux losers, puisque le premier, il ne sait pas comment parler, et le second, il est acteur.
Richard the Third, avec un accent australien,
donc. Voilà. donc voilà, on va dire qu'il n'est pas du tout non plus, c'est pas un winner, quoi. Et d'ailleurs, je crois que l'acteur qui joue, enfin c'est une petite anecdote, l'acteur qui joue le directeur de théâtre qui veut pas l'embaucher, c'est le gars qui joue Cicéron dans la série Rome d'ailleurs, ça m'a rappelé la physique un peu particulière.
Ouais, bah, de toute façon, il y avait plein de personnes que l'on voit régulièrement dans les séries anglaises qui ont joué dans ce film, c'est tout à fait normal. Mais après, ça reste un film dont l'image est relativement peu importante finalement, puisqu'on est dans le média de la radio.
Voilà, et donc ça donne vachement envie en fait de parler dans des micros, puisque au début du film il y a une intro que moi j'ai trouvé superbe, où c'est un présentateur en fait qui exerce sa voix avant de parler.
Oui, et c'est l'ouverture officielle de la diffusion de la British Broadcast Company, puisqu'à l'époque c'était une entreprise privée au début, la BBC, et c'est l'ouverture justement de la BBC, le discours d'inauguration qui se fait en public.
Voilà, donc on voit le gars qui fait qui essaie de voilà, il boit le avec de l'eau
à deux empans du micro.
Ah oui, à deux empans du micro. Alors c'est très c'est le cérémonial est conservé, c'est-à-dire que on voit que le gars, il a voulu démontrer l'importance du microphone. Et d'ailleurs, en plus, quand le roi fait son fameux discours qu'il aura eu tant de mal à préparer, on le voit entrer dans plusieurs antichambres où il y a toute la cour qui est là, faites-nous rêver. Après il va dans une autre antichambre où il y a ses proches, ensuite une autre antichambre où il y a 2-3 proches, et à la fin il se retrouve tout seul, et là t'as un silence qui envahit la salle, si vous avez le plaisir de le voir au cinéma, qui est vraiment il n'y a plus personne qui parle, quoi.
C'est parce qu'en plus ce film est très drôle, il y a plein de répliques qui passent, donc il y a souvent des rires dans la salle, et puis là tout d'un coup très soft. On vous dit pas ce qui se passe pendant le micro parce que c'est les discours historiques où on les retrouve, même si le discours de fin, celui qui a eu lieu le 3 septembre 1939, a été sérieusement abrégé pour le cinéma, on peut le retrouver par ailleurs. Mais c'est surtout ce qui se passe après qui est encore plus drôle.
Voilà, et ce qui est frappant dans le film, c'est que le film commence sur un handicap d'un gars qui peut prendre la couronne. Tu te dis, c'est un handicap et tout. Et puis après, dans le film, tu comprends que merde, on est en 39 et il y a un gars allemand qui parle vachement bien en face. Et puis il faut que les Anglais ils se trouvent quelqu'un pour essayer d'avoir la même logorée. Et là, tu te dis, c'est pas gagné.
Il regarde les infos pâtées qui parlent de son couronnement pour valider les images et il laisse courir le sujet. Après, il fait non, laissez et tout. Et là, tu as Hitler qui est lors du rassemblement de Nuremberg, parce que je crois que c'est en 36, qui parle, qui magnétise une foule immense et on voit qu'il transporte les foules. Papa, qu'est-ce qu'il dit ? Fait la future reine Elisabeth II. Je ne sais pas, mais il le dit bien. Et là, c'est là où on a vraiment la puissance de la radio, le magnétisme justement que peut avoir le son, et on est dans le média de l'imaginaire, et on le sent très bien, et là-dessus...
Ensuite, au niveau du casting, c'est parfait, il n'y a aucun qui cabotine, même si on aurait pu, avec le personnage du docteur. Colin Firth, il est en retenue, mais le personnage est riche et intéressant, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est fade, et c'est pas quelqu'un qui est effacé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a du caractère, mais qui ne demande qu'à poindre, et qui sort quand il s'y attend le moins, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez sanguin, mais comme il est en retenue et qu'il ne sait pas parler, donc ça, à un moment donné quand il parle amicalement avec quelqu'un qui n'a plus aucune retenue, c'est là que ça sort. Donc c'est un personnage, Colin Firth l'interprète superbement, parce que il joue dans l'entre-deux, il arrive à laisser échapper qu'il est avec une fonction qui est la fonction suprême en Angleterre, et malgré tout c'est quand même quelqu'un qui essaie de lutter contre son handicap avec sa femme et Helena Bonham Carter, avec la femme à poigne derrière, mais pas trop non plus parce qu'elle est toujours en retrait. Donc c'est vraiment le casting super subtil, quoi. Voilà. Donc j'ai hésité avant de vous parler de ce film et du film suivant, parce que ça fait longtemps qu'ils sont un peu à l'affiche, mais bon, finalement je l'ai fait parce que ce sont des films qu'il faut absolument voir, ils sont encore à l'affiche, et puis il fallait absolument qu'on vous en parle. Donc voilà, Le discours d'un roi de Tom Hooper avec Colin Firth et Helena Bonham Carter, Geoffrey Rush notamment, qui est toujours à l'affiche et qu'il faut absolument voir en VO.
Très bon film. Je à voir en VO peut-être, on a oublié de le dire.
Ah oui, c'est vraiment important. Fini là-dessus. Moi je l'ai vu en VF, c'est catastrophe. Enfin, là, il est bien doublé, mais quand le film est basé sur la dialectique, la façon de s'exprimer, c'est n'importe quoi.
Ouais, et que c'est Colin en plus.
Oui, c'est Colin Firth.
Voilà, alors que tu as le patron du théâtre qui congédie justement là ce monsieur en disant vous avez un accent australien, qui lui a un putain d'accent de Cockney. C'est à trancher, t'es là, tu fais voir ça, c'est l'hôpital qui sous la charité.
Il est australien, Geoffrey Rush.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et celui qui joue George V, vous le connaissez, il a eu une longue barbe blanche.
C'est Michael Gambon qui joue Dumbledore.
Entre autres.
Oui.
entre autres. Autre chose, et là c'est vraiment autre chose, puisque là c'est une jeune fille qui fait des pointes.
Oui, une jeune fille qui fait des pointes, qui se fait mal, et un film qui a beaucoup moins fait l'unanimité que le précédent, mais qui a quand même transporté pas mal de gens, qui s'appelle Black Swan. Et donc c'est le nouveau film du gars dont je chronique tous les films ici, qui s'appelle Darren Aronofsky, avec Nathalie Portman, Oscar Isel aussi pour l'Oscar du meilleur premier rôle féminin, avec Vincent Cassel, Mila Kunis, Winona Ryder et Barbara Hershey. Alors Nina est danseuse dans la troupe du chorégraphe Thomas Leroy. Alors que celui-ci prépare une adaptation du Lac des Cygnes, elle est obsédée par l'obtention de double rôle central. Alors elle convient parfaitement pour le virginal et pur cygne blanc, mais jouer son jumeau, le cygne noir, pour le jouer, elle va devoir explorer sa sensualité et s'aventurer dans des zones troubles en s'abandonnant totalement.
Alors on peut aller voir le film sans connaître ou en ayant vu le ballet. Ça tombe très bien, il passe en ce moment sur Mezzo d'ailleurs.
Bah ouais,
on se l'est fait. On se l'est fait du coup.
C'était une gageure enfin, moi, de toute façon connaissais. De la part d'Aronofsky, hein, c'est de pouvoir réaliser un film sur
une œuvre mythique,
une œuvre de danse, mais qui soit accessible à des gens qui ne connaissent rien à la danse et qui ne sont jamais allés voir un ballet. Hein, parce que bon, bah voilà. C'est pas donné, c'est pas évident. Quoi.
C'est pas évident. Et puis moi, je t'avouerais que le film, j'étais là, c'est gnangnang ou possible, le lac des cygnes, on me l'a bassiné, ça va, stop. Et finalement, waouh.
Oui, parce que c'est moins un film sur la danse qu'un film sur quelqu'un qui va explorer son corps et jusqu'au bout. Parce que de toute façon, si vous connaissez un peu la filmo d'Aronofsky, quand vous savez qu'il a fait The Wrestler avec Rourke, et puis vous dites ah c'est un drame social et tout, mais bon, quand vous savez qu'il a fait Pi, Requiem for a Dream avant, et que on te dit à un moment donné que ben il y a des plans super trash de Rourke qui se fait mal avec des agrafes sur un ring, ben là tu te dis le Lac des Cygnes, ben ouais. Quand tu vois ce que tu vois dans le film, ah ouais, c'est normal.
C'est la transformation, la nouvelle chair.
Voilà, ouais, voilà. C'est,
oui. Oui, je sais, je t'ai spoilé ton sujet.
Non, pas du tout, puisque t'as tout à fait raison, puisque moi, beaucoup de gens l'ont rapproché de gens comme Cronenberg ou des gens de comme Tsukamoto qui se sont interrogés sur la place du corps, hein, même avec des doses, des dimensions science-fiction dedans ou fantastiques. Alors ici, il s'agit surtout du rapport au corps aussi de la nana. Donc c'est, on peut voir le film avec plusieurs niveaux de lecture. On peut voir une nana juste qui vivait pas avant et qui sous l'emprise d'un espèce de mentor artistique va explorer son corps et se libérer. On peut voir aussi le film avec l'allégorie sur la danse, avec les danseuses qui se font du mal et qui vont jusqu'au bout. On peut voir aussi le film construit comme le ballet de Tchaïkovski. Enfin, on peut voir le film sous plein d'angles. Alors, la critique qui est beaucoup sortie sur ce film, c'est que le scénario est à chier. Bon, le scénario, de toute façon, il y a deux trucs. C'est, vous faites un film avec une histoire, genre Inception par exemple, ou Shutter Island, ou justement la fin te fait revoir le film et tout, et puis tu le vois pour le scénario. Et après, tu t'occupes de la mise en scène. Bon, Inception, c'est sur les deux. Mais quand vous avez un film sur l'ouverture au sens et sur le ressenti et sur une expérience sensorielle, ben forcément, le scénario doit se faire un petit peu oublier. Donc le scénario, on va dire, qui suit basiquement la trame du ballet. Mais c'est pas pour ça que tu vas voir le film de toute façon, c'est pour l'essence, pour voir comment Nathalie Portman se débrouille avec ce rôle là, comment son corps réagit, même si c'est pas, s'il y a des doublures pieds, à un moment donné il y a un plan sur des pieds où elle enlève ses pointes, c'est indescriptible, c'est horrible, qui est propre aux danseuses, hein, aussi le plan.
Oui, mais enfin voilà quoi, ils font des pointes et heureusement que les petits chaussons sont jolis, encore les chaussons ils prêtent cher.
Oui, mais il faut savoir qu'il y a pas que les pieds, il faut dire que tout le corps, hein, en fait, est quelque chose qui est martyrisé, hein, entre guillemets, mais même pas entre guillemets, hein, ouais, par les danseurs et les danseuses, hein, parce que bon, ben, il faut voir la somme de travail que ça implique, hein, de pouvoir arriver à reproduire cette sensation de légèreté, d'absence de pesanteur, de gravité, hein, chez les danseurs et danseuses. C'est un travail qui est absolument énorme, hein, et les pathologies sont très nombreuses, hein, chez les gens qui pratiquent la danse, hein, de toute façon, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de danseurs et de danseuses qui sont très bons clients chez les ostéos, chez les médecins, sans problème. Parce que c'est vraiment les footballeurs à côté, quoi. C'est un petit peu de la gnognotte. danse quoi, vraiment quoi.
Bah, et football, c'est plus de l'actorat que de la danse.
Ah, mais, je pensais que t'allais dire autre chose.
Mais ce que je veux dire, non, mais ça, par contre, c'est un film qui prend vraiment en trip justement, parce que quand on voit les blessures, quand on voit tout ça, c'est.
Ah, les pétages d'angle, les.
Ouf. Voilà. On se le prend physiquement et on en est angoissé par moments. C'est ça qui est surprenant, c'est que le film, on s'attend pas qu'il va vous prendre comme ça. Il va vous y amener. Et au bout d'un moment, on se dit ouais, d'accord. Sous prétexte de classicisme, il y a quand même des choses. C'est impressionnant.
Moi, le seul point négatif du film, alors c'est vraiment pour chipoter, c'est que on comprend très bien l'analogie entre le personnage principal et son personnage. Est-ce que c'était utile d'aller autant dans le visuel avec les métaphores visuelles ou pour marquer vraiment les métamorphoses de son corps quand elle franchit des paliers pour se rapprocher de ce fameux rôle du cygne noir? Je dévoile pas ce que c'est, mais bon, Xavier, t'as compris. Est-ce qu'on était obligé d'aller dans les effets visuels comme ça? Moi, je suis pas persuadé. Il aurait pu s'en tenir un peu en retrait aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film fonctionne comme la deuxième partie d'un diptyque fait, bien sûr, avec The Wrestler. Justement, parce que d'abord, ça devait être un seul film. C'était un catcheur qui rencontrait une danseuse. D'ailleurs, les deux trames sont à peu près proches, puisque ce sont la vie qu'ils ont sous les projecteurs ou sur un ring ou sur un ballet qui interfère après avec la vie personnelle. Alors, c'était plus dans le drame social avec le film avec Rourke, alors qu'ici, on est plus dans l'exploration féminine avec une dimension sexuelle qui est plus présente. Il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de gens qui auraient pu être refroidis par le côté angoissant, puisque ça a été présenté un peu la bande-annonce comme un film d'horreur en fait. Mais en fait, c'est une dimension angoissante, notamment son rapport avec le personnage de la mère ou le personnage de la précédente danseuse étoile qu'elle va suppléer, enfin qu'elle va remplacer. Donc là, on voit qu'il y a quand même une espèce de rivalité et puis une rivalité très malsaine avec sa mère, puisque c'est une ancienne danseuse ratée qui est très jalouse aussi. Et la mère, elle aurait très bien pu jouer dans des films de Dario Argento, si tu vois.
Barbara Hershey.
Oui.
Elle a joué dans Un Carpenter, d'ailleurs. Elle est dans Fog.
Ah oui, c'est possible. Et donc là, elle a vraiment...
J'avais pas vérifié.
Pardon, alors, je sais pas. Et donc là, elle a vraiment la tête d'une sorcière, comme la directrice du couvent de danseuses dans Suspiria. Vraiment le même personnage. Alors quand tu rentres chez elle, la danseuse, tu dis qu'est-ce qui va lui arriver encore sur la tronche. Surtout que pour illustrer le fait qu'elle sait plus où elle en est, qu'elle doit explorer ses sens. Alors à un moment donné, il y a des perceptions qui diffèrent. Tu sais pas trop si ça lui arrive vraiment ou pas. Donc bon voilà, c'est une dimension vraiment angoissante. T'as son double aussi dans le film qui est incarné par une nouvelle danseuse, donc Mila Kunis, qui est beaucoup plus sensuelle qu'elle et qui, entre guillemets, qui va l'ouvrir au plaisir nocturne, on va dire. Et donc voilà, c'est toute la partie intéressante du film. Le casting, bon voilà, Nathalie Portman, bon super. Vincent Cassel, pour la première fois, il m'a scié dans un film américain. Bon, c'est dans Ocean's 12, je l'avais trouvé bon, mais dans le Cronenberg, j'avais trouvé à chier par exemple.
Et puis aussi, on sentait que voilà quoi, il était un peu la pièce rapportée guest star et tout. Tandis que là, il est vraiment. D'abord, c'est un rôle de composition où il se retrouve en fait chorégraphe. Il le joue vraiment. Il est étonnant en VO. Il y a des moments d'énervement où il commence à partir en français et celui qui joue le danseur qui tient Nathalie Portman, etc. Au bout d'un moment, il lui dit "Would you fucker? Si tu l'enculerais." D'ailleurs, c'est encore plus drôle parce que c'est petit ami de Nathalie Portman.
C'est lui le chorégraphe du film, hein, d'accord.
D'accord, voilà. Donc là, c'est encore plus drôle pour le coup. Mais il est justement, il est pas mal. Il est dans la retenue et en même temps, il est la personne qui porte le ballet et qui porte le glamour en même temps, qui va chercher les sponsors, les donateurs et tout ça. Donc il y a tout ce rôle-là, on le sent. Littéralement, donc c'est entre guillemets, voilà quoi, c'est le chef d'orchestre, celui qui le capitaine du navire, et il le fait excellemment bien. Je trouve que de ce côté-là, il a justement, il est dans des rôles qui sont très différents de ce qu'il a fait dans La Haine, ce qu'il a fait par ailleurs. Là, c'est plus en retenue, étonnamment.
Oui, mais il a quand même un rôle qui explore un peu la partie, enfin, la dose sexuelle française qui manque un peu à certains acteurs, qui manque de présence physique aux États-Unis. Si tu vois les acteurs un peu lisses, là, Vincent Cassel, il a fait les claquettes, il a fait l'école du cirque. Bon, c'est quelqu'un qui a l'aise avec son corps et qui a pas peur. Donc, à un moment donné, il balance une réplique à Natalie Portman qui commence à précipiter le film dans une autre dimension. Il lui dit, bon, je te donne des exercices à faire à la maison pour le signe noir. Tu te couches et tu te touches. Et parce qu'avant il lui dit mais alors sinon t'as un petit copain, t'aimes le sexe et tout, alors il lui dit quoi, mais ça va pas, non, allez, tu vas chez toi,
voilà,
tu
te touches. Ou à Blanche, et là
voilà. Donc
après il y a tout le, on vous laissera toutes les cultures parce que ce serait dommage sinon d'en parler, toutes les lectures qu'on peut avoir dans ce film vis-à-vis à la fois mystique, les références, les images, et tout le reste, ça c'est à chacun à soi. Je veux dire, on part avec une partie du film, est-ce que tel personnage est vraiment là ou tel truc, ça c'est vraiment le côté, je veux dire, très agréable, c'est que ce film, on n'en finit pas d'en parler avec les autres personnes qui l'ont vu. C'est justement là où on voit Darren Aronofsky, c'est pas un film qui est premier degré, loin de là, c'est vraiment agréable justement de ce côté là il y a plusieurs écritures. Après il y a plein de gens qui disent que il a eu aux Oscars. Ben, Nathalie Portman a eu son Oscar pour sa performance personnelle et sa transformation qu'elle a menée sur le corps, je le crois très sincèrement.
Voilà, donc Black Swan, toujours à l'affiche de Darren Aronofsky avec Nathalie Portman et Vincent Cassel, et qu'on nous vous recommandons aussi.
Nightmare on Wax, That Date with Destiny. On se fait une petite pause, vous êtes sur le Supplément Week-end et oula, il est 13h05.
Strange wife, but it's all right. Time's on your side. Left with your dreams, your only means of escape. Seems your only fantasy time as you wait. Hey, can't wait to take positive hostage. But it's all right. Time's on your side. So don't let it bring you down. It's wrong. There's always a way. The hour.
Nightmare on Rocks, Date with Destiny, extrait de l'album Mind Elevation. C'est le supplément week-end.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça, c'est la loi des séries.
Avec une série qui est déjà terminée de diff.
Ouais, ouais.
Mais multidiffusé, on leur fait confiance.
Oui, 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 certainement. Bah, ça aidera peut-être à louper les épisodes qu'on a loupés parce qu'ils étaient diffusés vraiment trop tard. Alors on dirait bien, bon, bah, je répète souvent que M6 et TF1 souvent se tirent la bourre, c'est les foules frontales en ce qui concerne la programmation. Hein, ouais, c'est moi qui ai la plus grosse. Et je tire assez souvent sur TF1, au sujet de leur programmation, trois épisodes diffusés comme ça dans la soirée, allez vas-y, on te gâche une série, enfin bon, plein de choses comme ça. Hein. Et M6 a décidé de faire encore mieux. Allez, on peut faire mieux que TF1, il n'y a pas de problème et tout. On va te diffuser 5 épisodes dans la même soirée, c'est ce qui est arrivé jeudi dernier, pour clore la première saison de The Good Wife. Dernier épisode, donc, qui commençait à minuit moins le quart.
Voilà, sachant que Life on Mars version américaine, ils ont commencé la première diffusion sur M6, puisque heureusement ça a été diffusé avant sur une autre chaîne, à 22h30. Et puis après, la semaine suivante, ils ont mis un nouveau magazine, donc la diffusion était à 1h45,
voilà,
puis ouais. À 2h15, puis à 1h15, c'était insuivable.
Voilà, insuivable. Ouais, on pourrait parler également.
On se demande, c'est ça pourquoi ils achètent des séries, quoi. Ils gagnent du fric.
Oui, c'est vrai, parce que bon, on pourrait également parler de Nip Tuck. Qui, dans la dernière saison, est diffusé le vendredi soir après minuit.
Je suis plus.
Tu suis plus, c'est normal, quoi. Bon, bah, est-ce que t'as envie d'être devant la télé le vendredi soir à minuit, quoi. Hein, exprès pour suivre un truc, quoi. Bon, faut quand même pas déconner, quoi. Hein, alors, The Good Wife, j'en avais parlé pour vous présenter cette série, donc, dont la production exécutive est quand même assez honorable, hein, Tony et Ridley Scott, on peut se dire bon bah ça va quand même être relativement bien foutu et tout. On avait quelques doutes quant au retour de Juliana Margulies, qui est The Good Wife, qui est le personnage principal de cette série, elle qui était la petite amie du Dr Ross dans Urgence, et puis bon bah depuis on l'avait plus tellement beaucoup vu, hein, faut le dire, quoi. Et là, bon, bah, ok, lifting aidant, parce que bon, bah, elle a un petit peu changé de tête quand même, hein, elle ressemble plus à femme que Janssen maintenant, quoi, tu vois, hein, pour te dire.
Ah bon?
Ah oui. Mais ce qui est agréable, c'est que dans cette série, elle se sert de ce nouveau look, justement, comme d'une arme, hein, et bon, bah, vu son boulot, puisqu'elle est avocate dans la série, et bah, ça fonctionne très très bien. Alors, c'est pour cela que bon, bah, ok, quoi, on l'excuse, quoi, pour ce changement de tête, on va dire. Outre Juliana Margulies, eh bien, on prend à ses côtés le mari, le mec qui marche bien et tout, quoi, qui est le tombeur de la série télé, hein, le Dr Big, Mr Big,
ah ouais,
Chris Knott, donc, oui, qui joue le rôle du procureur qui, au début de la série, se fait gauler en fâcheuse position et qui, donc, est obligé de démissionner et va au trou, carrément. Et bon, bah, ok, comme il n'y a plus de pépettes qui rentrent, Juliana Margulies, qui avait laissé tomber son boulot avocat pour s'occuper de ses enfants et tout, est obligée de reprendre son boulot et de trouver un boulot en tant qu'avocate qu'elle trouve par l'entremise d'un de ses ex-petits amis. Enfin, on ne sait pas trop, on se dit, bon, ils ont une aventure. Non, en fait, ils n'ont pas eu d'aventure, ils ont failli avoir une aventure, mais qu'ils sont connus sur les bancs de la fac. Donc, ok, bon, bah, ça facilite l'entrée dans le cabinet d'avocat. Alors, la série en elle-même, bon, on aurait pu être tenté de dire, au vu des premiers épisodes, bon, ok, c'est encore une série d'avocats, avec à chaque fois une histoire à résoudre, c'est-à-dire, bon, bah, quelqu'un à défendre, est-ce qu'il est vraiment coupable, tout le bordel, et bon, bah, la résolution à la fin de chaque épisode, d'accord. Mais en même temps, en fil rouge, il y a l'histoire de la rédemption de Chris Knott. C'est l'histoire également, le fait de le faire sortir du trou, hein, parce qu'il est au trou, hein, c'est quand même pas terrible. Et c'est aussi la relation que peut avoir une personne qui se retrouve catapultée devant le public. Auparavant, c'est Chris Knott, son mari, qui est procureur de la République, donc qui est tout le temps devant la télé, tout ça, alors qu'elle, c'est l'épouse dévouée, la bonne épouse, The Good Wife, c'est le titre, hein, et qui est là, bon, bah, ok, pour s'occuper de ses gosses et tout, et qui reste en retrait dans l'ombre. Et là, bon, bah, ok, du fait que c'est la femme d'eux, elle va se retrouver sur le devant de la scène parce qu'elle a un rôle un peu plus public qui est le rôle d'avocat. Donc avec des fois des affaires qui sont publiques, qui sont très polémiques. Alors là, bon, bah, ok, au niveau des affaires, ils ont quand même réussi à faire très fort et à coller vraiment à l'actualité. C'est ça qui est vraiment très intéressant qu'on retrouve pas tellement en France, mais surtout aux États-Unis, où vraiment dès qu'il y a un sujet un petit peu polémique ou qu'il y a un gros scandale qui sort, eh ben il n'y a pas de problème, on s'en sert, on va le détourner, on va en faire un petit scénario qui colle et qui est tout à fait crédible. C'est ça qui est intéressant, hein, justement, hein. Le scandale du Mediator, des trucs comme ça et tout, hop, il n'y a pas de problème, on s'en sert et puis on fait un petit truc et tout, quoi. Il suffit de changer les noms et puis bon, ça marche très très bien. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que bon, ben, le mélange qu'il peut y avoir entre le fil rouge, hein, pourquoi est-ce qu'on a balancé Chris Noth, pourquoi est-ce que Chris Noth se retrouve au trou, on se rend compte qu'il y a quand même derrière, bah, quelques petites magouilles, que le nouveau procureur de la République, joué par Titus Welliver, alors là, bon, ok, lui, il a la tête pour jouer ce genre de rôle, ben, n'est pas un petit peu pour le fait qu'on ait diffusé des images un petit peu olé-olé, des images de Chris Noth en train de fumer du crack avec une pute dans une chambre d'hôtel, enfin, des petits trucs comme ça, quoi, histoire de bien l'enfoncer. On se dit, bah ouais, ça vaut quand même le coup, il y a quand même quelque chose à tirer de cette série, et ça vaut le coup de pouvoir la suivre. Et dans l'ordre. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est une série où tu peux pas débouler comme ça, te dire, clac, je regarde un épisode, parce qu'il y a quelques petits trucs que tu vas pas comprendre du tout, les relations du mari avec la femme et tout, parce que bon, bah, justement, il y a aussi cette histoire de relation, d'amour qu'il peut y avoir entre deux êtres, mari et femme, hein, l'évolution de cette relation au fur et à mesure que des détails nouveaux apparaissent, et c'est là que c'est vraiment très, très intéressant, et c'est là que cette série, c'est là qu'on comprend que cette série, eh ben, a quand même eu un bon succès aux États-Unis, malgré le sujet qui est plus ou moins bateau, hein, ça, je l'ai déjà dit. Aidé par en plus un casting qui est pas dégueulasse du tout, outre Julien Margulies et Chris Noth, on a Alan Cumming qui lui est tout simplement excellent dans le rôle du conseiller d'image de Chris Noth. On a Joe Morton qui joue le rôle d'avocat, Terry Kinney qui vient faire une petite apparition sur 2-3 épisodes, ça c'est toujours bien, Titus Bolivar, je l'ai cité, plus les guests qui apparaissent durant un épisode. Et là, on se dit que bon, là c'est vraiment une série excellente. Mais, et c'est là que le bât blesse, la diffusion telle que nous l'a imposé M6, la série de 23 épisodes qui a été dépotée en 5 semaines, t'imagines, calcul,
oh, mais c'est hallucinant,
5 quoi. Ou 6 semaines, tu te dis, ok, faut quand même pas se foutre de la gueule des gens, et M6 ils repasseront. Ça, vraiment, là, c'est vraiment abusé, hein, tu vois, pour te dire, j'ai pas pu regarder.
C'est absolument pitoyable, on est d'accord.
Non, j'ai pas pu regarder le dernier épisode de la série parce que minuit, désolé, hein, il faut quand même travailler le matin, hein. Tant pis. Voilà, ça c'était pour The Good Wife. Bon, ne loupez pas si jamais il y a une rediffusion à une heure un petit peu plus honorable, on va dire, ça vaut vraiment le coup de se regarder cette série du début jusqu'à la fin. Il y a quand même quelques épisodes qui sont un petit peu plus légers, on va dire, hein, mais ça c'est inhérent à toute série, hein, aussi bonne soit-elle. Il y a peut-être quelques exceptions, mais elles sont vraiment très 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 rares, hein, de toute façon, quoi. Parlons à présent également d'une autre série qui cartonne vraiment à fond les manettes, et le succès ne se dément pas pour l'instant, hein, c'est bien entendu CSI. Et CSI qui va nous gratifier demain d'un triple crossover.
Ah, les trois CSI.
Les trois CSI, carrément. Alors, on avait déjà eu un double crossover, hein, c'était Miami, Manhattan. C'était en fait pour introduire la série Manhattan, celle avec Mac Taylor, avec Gary Sinise. Hein. C'était Horacio qui commençait son truc à Miami et qui continue à New York parce que le mec s'était enfoui à New York. Donc forcément, il était obligé de bosser avec Mac Taylor. Hein. Et puis bon, ça introduisait justement la série CSI Manhattan, qui est la troisième, hein, après Las Vegas dans l'ordre, puis Miami, puis Manhattan. Et alors ça, c'est marrant parce que c'est tous les deux ans, hein, si vous regardez bien. Hein. On en est à la saison 8 de Miami, à la saison 6 de Manhattan, et Las Vegas, on est à la saison 10. Et donc là, eh bien, il faut aussi savoir que ce triple crossover n'aurait pas été possible il y a un an ou deux ans, quand William Peterson était encore sur la série, était encore.
Oui, parce que lui, il considérait les deux autres licences comme étant des merdes du monde.
Et il a une inimité tout à fait particulière vis-à-vis de David Caruso.
Pourquoi ?
Ceci empêchait, il s'aime pas, quoi. Bon, ok, il s'aime pas du tout. Enfin, Peterson n'aime pas du tout Caruso. Bon, Caruso, qui est également décrit, hein, par les gens qui le fréquentent comme étant quelqu'un de particulièrement chiant, très, très exigeant, comme il est producteur exécutif de sa propre, enfin de CSI Miami, bon ben c'est lui qui est quand même un petit peu le patron. Donc vraiment, il paraît que c'est vraiment très dur de travailler avec lui. En plus, il a un petit penchant pour la bouteille, donc ça n'aide pas non plus, quoi. Mais bon, ok. Hein. Et là, bon, ok, du fait que c'est Larry Fishburne qui a repris le rôle de Petersen dans Las Vegas, bon, bah, ça va un petit peu mieux. Vu qu'ils se connaissent, Caruso et Fishburne, ils ont joué ensemble dans le King of New York de Ferrara.
Oui.
Donc là, ça va mieux. Il n'y a plus de problème, quoi. Là, on est en terrain de connaissance. Alors, demain soir, à partir de 20h45, donc les trois épisodes. Alors, c'est dans l'ordre, bien entendu, de l'histoire. Tout d'abord, ça commence à Miami. La saison 8, c'est l'épisode. Alors, en plus, c'est chaque fois le 7e épisode de la saison. Ce qui veut dire, et ce qui explique, on l'avait déjà expliqué au sujet de la programmation aux États-Unis, hein, c'est que leur programmation, bah, c'est quand même un épisode par semaine.
Bah, d'accord. Petit peu obligé, c'est eux qui produisent. Hein, ils peuvent pas faire travailler plus vite les auteurs.
Voilà, c'est ça. Et, mais en même temps, comme ils ont les trois séries sur le feu, eh bien, les trois séries commencent en même temps, à une période donnée de l'année, et se terminent à une même période. Donc, on a les épisodes qui sont programmés, on va dire, bon, c'est pas exactement ça, mais enfin, Miami le mardi, on a Manhattan le jeudi, et Las Vegas le samedi. Enfin, bon, dans le désordre, enfin, tu vois.
Le samedi, non, il n'y a rien le samedi, et le vendredi aussi, bref, quoi, c'est enfin, à peu près ça.
Bref, voilà. Quoi, c'est à peu près ça, quoi. On a les trois licences qui sont les épisodes... le rythme d'épisode est le même. Donc là, bah, c'est chaque fois le 7e épisode de la saison, hein, qui sert justement de à ce crossover. Le 7e épisode de la saison 8 de Miami, c'est les disparus de Miami, suivi de Manhattan, les passagères de New York, 7e épisode de la saison 6. Et on termine à Las Vegas, c'est Larry Fishburne donc qui va trouver la solution. Les innocentes de les innocentes de Vegas, donc le 7e épisode de la saison 10. C'est demain soir à partir de 20h45 sur TF1. À présent, une série qui renaît de ses cendres, et je vais vous citer un petit peu le casting de la série originale. Alors. Avec Antonio Sabato Jr., avec Vanessa Williams, Anthony John Dennison, Tracy Lords, Patrick Muldoon, Heather Locklear, Grant Cho, là ça commence à vous être
sûr. Ah oui.
Kelly Reservoir,
Melrose Place,
Alyssa Milano, Rob Estes, Christine Davis, David Charvet, Lyndon Ashby, et j'en oublie, c'est bien entendu Melrose Place, qui est déjà, on va dire, qui est déjà un petit peu le pendant adulte de Beverly Hills, puisque oui. Ça a été créé par Darren Star et puis produit par Aaron Spelling. Et là, eh bien, c'est Melrose Place Next Generation qui démarre sur M6 à mercredi donc prochain, mais à un horaire c'est pour les mémères et puis pour les gens qui foutent rien la journée, mercredi l'après-midi à 15h15. Donc trois épisodes de cette nouvelle saison qui en compte 18 dans sa première saison, Melrose Place The Next Generation. Sinon sur France 2, eh bien ça risque de peut-être de faire mal sur France 2 mercredi à 20h35, une série polar entièrement inédite française s'il vous plaît, écrite par une nana, une fille qui s'appelle Virginie Braque et qui s'appelle Les Beaux Mecs. Les Beaux Mecs, c'est comme ça que s'appellent les gangsters. Ça je l'ai lu en lisant le truc, hein, tout simplement, je savais pas du tout quoi. Hein, et ça va donc raconter l'histoire de la vie d'un gangster depuis le départ, depuis sa jeunesse et tout. Il paraît que bon, ça dépote que France 2 a décidé d'adopter un ton un petit peu plus vif, un petit peu plus viril, un peu plus violent. Hein, on sait qu'on a eu des précédents avec Olivier Marchal, Braco et tout ça, donc bon bah la donne a un petit peu changé. Et bon bah pour ne pas rester dans le domaine du convenu, consensuel, c'est pour toute la famille, genre PJ, eh ben on a décidé de faire du truc qui dépote un petit peu. Et là ben ça va raconter l'histoire de donc ce gangster, interprété par Simon Carian, qui va s'évader de tôle et qui est à la recherche d'un pote à lui avec qui il a fait toute sa carrière de gangster et qui au départ était porté disparu. Et bon, on lui dit bah non, il est pas porté disparu, en fait il est là, il est toujours vivant et tout quoi. Et donc ça raconte un petit peu cette histoire avec de nombreux flashbacks qui racontent un petit peu tout son parcours. Donc et à côté de Simon Apkarian qui donc joue le rôle principal du gangster adulte, car il y a également par exemple Mohamed Areski qu'on avait vu dans Les Bleus, premier pas dans la police, qui joue le même rôle mais plus jeune. On a également Victoria Abril, Anne Consigny, Philippe Nahon, Olivier Rabourdin, Soufiane Guérab et Caroline Lucet dans les rôles principaux. Donc ça va, c'est un casting qui est quand même relativement intéressant. C'est Les Beaux Mecs, donc 8 épisodes. C'est sur France 2 qui va diffuser à raison de 2 épisodes par mercredi à partir de mercredi prochain. Du côté des inédits, on a eh bien la case du dimanche soir sur France 3 n'est plus occupée par Barnaby.
Ah.
Et quand on n'a plus Barnaby, qu'est-ce qu'on met à la place ? Une autre série anglaise, Inspecteur Gently. Gently entre en jeu, c'est le titre de ce premier téléfilm dont le personnage principal, l'inspecteur Gently, est interprété par Martin Shaw. Alors cette série est un petit peu vieille, on va dire, elle date de 2007, hein, mais complètement inédite chez nous. Et là, c'est pas le même style que les inspecteurs Barnaby avec un téléfilm, une histoire complète. Mais ça va être une histoire avec un fil rouge. Ben, c'est l'inspecteur Gently qui s'apprête à raccrocher de la police. Hein. Il a passé 30 ans de bon et loyal service pour la Metropolitan Police of London et il décide de raccrocher. Ben, c'est normal. Au bout de 30 ans, t'as droit à toute ta retraite. Donc, mais un des premiers meurtres qu'il n'a pas pu résoudre au début de sa carrière et tout. Eh bien, il y a des indices nouveaux qui apparaissent et le tueur qui s'est promis de choper et tout, quoi. Eh bien, qui a disparu dans la nature. Eh bien, il y a un nouveau meurtre qui vient d'être commis et qui présente des super similitudes avec ce qui s'était produit quelques années auparavant. Et donc, bah, il décide de pas raccrocher et de continuer. Ça peut être intéressant. C'est anglais, donc avec Martin Shaw, Lynn Hobby et Mark Lambert. C'est demain soir sur France 3, 20h35, Inspecteur Gently. Sinon, une série complètement inédite sur TF1, programmée encore à un horaire indu. Bah, c'est un petit peu dommage. Ça s'appelle Forgotten. Ce sera diffusé mercredi prochain à 23h15 sur TF1 avec Christian Slater dans le rôle principal, Michel Bors, Isher Stevens, et c'est ni plus ni moins un petit peu qu'une ressucée de Cold Case, à savoir que la seule différence c'est que ce ne sont pas des flics mais une espèce de groupe qui s'appelle le Cercle des Oubliés et qui essaie de se charger de résoudre des enquêtes qui sur des crimes non résolus, sur des affaires non résolues. Voilà, c'est ça le pitch de toute façon. Bon, il faut voir ce que ça donne, hein, de toute façon, sachant que Chris Slater, quand il veut, bah il joue très très bien, hein, donc ça vaut peut-être son pesant de cacahuètes, on sait pas. On verra sur pièce mercredi prochain à 23h15 sur TF1. Lie to Me, c'est la saison 3, et ça remplace The Good Wife jeudi prochain sur M6. Et là ils se sont dit bon, pour le début on va pas en mettre 5, on va en mettre que 4. Alors il y aura 4 épisodes de Lie to Me jeudi prochain sur M6
épisodes.
À partir de 20h45. Voilà, c'est comme ça, c'est M6, hein. Bon, bah, ils ont décidé de nous énerver, ils vont nous énerver, il n'y a pas de problème, on en reparlera de toute façon. On termine avec un film par jour et au lit. ce soir, RTL 9 vous propose La Chevauchée Sauvage de Richard Brooks en 74, dont le titre original est Bite the Bullets, et qui est un film basé sur une histoire vraie. Hein. C'est une course de chevaux qui avait été organisée par le Denver Post en 1908. Et dans ce film de Richard Brooks, on retrouve Ian Michael Vincent, oui, Supercopter. Stringfellow Hawk, Gene Hackman, James Coburn, Yann Bannen, et dans tout bon western il faut Ben Johnson, il y est. Donc il n'y a pas de problème. Richard Brooks quand même, c'est quelqu'un, ce mec, hein. On connaît pas tellement bien ses films, on sait pas très bien qui il est, c'est normal, il arrête sa carrière il y a quand même au début des années 80, hein, c'est normal, il est né en 1912, donc il se fait un petit peu vieux, mais c'est quand même le mec qui au départ a commencé comme scénariste. C'est lui le scénariste de Key Largo, le film de John Huston avec Bogart. Il a également fait Brute Force de Jules Dassin, le papa. Donc en 1950, il passe à la mise en scène où il nous fait Quatre Consciences, puis Bas les Masques en 1952, Le Sergent La Terreur avec Richard Widmark et Karl Malden en 53, Blackboard Jungle, si, rappelez-vous, Blackboard Jungle, le premier film de rock'n'roll en 55 avec Glenn Ford, Last Hunt qui doit passer à la Cinémathèque ou qui est passé à la Cinémathèque de Toulouse lors des Jeudis de la Cinémathèque, on l'a Chatte sur un toit brûlant en 58, Elmer Gantry en 60, Lord Jim en 65, d'après le bouquin de Robert Conrad, Les Professionnels en 65, De Sang-Froid d'après le bouquin de Truman Capote, Looking for Mr. Goodbar, ça c'est en 77, et l'un de ces derniers c'est Meurtre en direct. Et Richard Brooks qui avait une caractéristique sur les plateaux de tournage, c'est qu'à la fin d'une séquence, il disait pas couper, il disait merci. Ah, sympa.
C'est poli, c'est bien.
Ouais, c'est sympa.
Ah, c'est la
sympa,
glace.
C'est sympa, quoi. Donc, c'est ce soir, hein, sur RTL 9, la chevauchée sauvage de Richard Brooks. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Demain, sur NRJ 12 à 20h35, un génie, deux associés, une cloche.
Oh là,
de Damiano Damiani. Mais ça vaut le coup, c'est excellent. Ouais, la musique d'Ennio Morricone, Terence Hill, Robert Charlebois, Miu Miu, Patrick McGowan, Klaus Kinski. Ça, c'est du film qui
ça,
tue.
C'est du casting hétérogène.
À l'aise, à l'aise, à l'aise. Lundi, sur la chaîne Action, deux petits incunables qu'il faut absolument voir si vous êtes férus de films asiatiques. C'est tout d'abord à 20h40, L'Hirondelle d'or de King Hu en 1966 avec Cheng Pei Pei, la nana qui prend le, qui se déguise en homme pour venger.
Oui, dans Tigre et Dragon.
Voilà.
C'est sur quelle chaîne ça ?
C'est sur la chaîne Action. Et suivi à 22h du retour de L'Hirondelle d'or qui n'a plus été fait par King Hu parce que je crois qu'il est mort entre temps, mais par celui qui était son assistant, un certain Chang Che, qui a pris comme assistant un certain John Woo. Hein, vous voyez la filiation ? Ok. Mardi sur Ciné Cinéma Classique à 20h40. Le film que John Carpenter a regardé en boucle avant de commencer à faire du cinéma et que le
bravo,
voilà, non, fort bravo, pas Rio Bravo, fort bravo de John Sturges.
Lui, c'est plutôt Ward Hawks, hein.
Oui, oui, mais il a également regardé cela, les deux, hein, avec William Holden, Eleanor Parker, John Forsythe et William Comblel, l'histoire de prisonniers sudistes qui s'évadent et puis qui se retrouvent dans une réserve d'Indiens. Ça dépote quand même, hein. Mercredi sur TF6 à 23h45, Sanglante méprise. Je vous en ai déjà parlé de ce téléfilm excellent de Scott Wiper, avec Scott Wiper, avec Lou Diamond Phillips, André Broger et Natasha Henstridge, que tu vois toute nue. Oui, oui, si.
Oh là là.
Magnifique. Mais ça vaut le coup parce que c'est un film qui est complètement nihiliste. Ça se termine très mal. Et le type qui, au début, tu te dis, ouais, c'est lui le bon et tout. De toute façon, il va descendre les gars de la mafia qui sont en train d'infiltrer les flics et tout. Mais en fait, non, il est aussi pourri. Il y a aucun bon dedans et tout. Ça vaut le coup pour ça, quoi. En fait, c'est assez violent et tout. C'est bien rentre dedans, quoi. Ça se regarde vraiment très, très bien. Hein. C'est donc Sanglante méprise sur TF6 mercredi à 23h45. Jeudi, sur NT1 à 20h40, Cloverfield de Matt Reeves, un que t'as aimé, toi.
Ouais, toi, bon,
sans plus,
à voir, bon, mais bon, avec,
bon, voilà, de
donc, c'est bah, du okay. C'est du Blair Witch avec Godzilla dedans,
voilà, bon bah ok, bon bah ok. Et vendredi sur la chaîne Polar à 21h, Justice pour tous de Norman Jewison avec Al Pacino, Jack Warden, William Forsythe et Lee Strasberg, le créateur de l'Actor Studio. Ouais. Et Pacino qui joue le rôle d'un avocat qui se retrouve piégé dans une histoire de viol. Il est obligé de défendre un mec qu'il aime pas du tout et qui est accusé de viol et tout. Et puis en fait c'est une conspiration. Enfin bon, je vous laisse le regarder, ça vaut le coup. C'est pas mal, hein. Norman Jewison aime bien faire ce genre de film un peu polémique et tout sur les dérives des administrations et tout ça, quoi. Et là ça fonctionne très bien. Et bon, comme il y a Pacino en plus dedans, hein, il y a pas de problème. Le film date de 79. Donc Pacino il était pas encore la superstar qu'il est devenu par la suite. Et donc il cabotinait pas autant, quoi. Voilà, c'est tout pour cette semaine.
Et avant que l'on se quitte, en plus d'avoir une pensée émue pour les 1300 personnes supposées qui ont été victimes du tremblement de terre à Tokyo, Jean-David Morvan, qui est entre autres le scénariste de Sillage et de plein de séries de bandes dessinées, qui vit à Tokyo d'ailleurs, propose de faire un blog avec des auteurs de BD du monde entier pour parler du tremblement de terre. Si vous souhaitez y participer, il suffit d'aller sur son site web jdmorvan.com, jdmorvan.com, pour avoir plus d'infos. On comptait l'avoir en direct et puis là, ben, mauvais plan, on a eu un petit souci. Thomas, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire le résumé pour ceux qui ont pris une émission en cours de route ?
Oui, nous avions aujourd'hui des logiciels qui dessinent tout seuls des mangas, des gros lolos, de la voix à couille, des loups-garous, des bikers, le retour de Fred Rabold, Elvis est un gros pavé, un beg, une danseuse qui se touche, une bonne femme, un coup de gueule contre M6, du triple ultra combo de CSI, du beau mec et un film par jour, et Oli !
Et nom de Dieu, il y en a qui ont loupé ça, ils ont été grippés en chemin, le vent a emporté une partie du son, pas de problème, grâce à Diffusion Différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, et aussi retrouver autant de fois que vous voulez nos chroniques écrites, oui, dans nos archives, jouer à des quiz stupides, pour cela c'est très simple, il suffit d'aller sur notre site web, supplementweekend.fr, supplementweekend.fr, sans accent ni tiré, 2 P, 1 M, 1 N, et 2 E,
comme supplément week-end quoi.
Ouais, non, mais il y en a, ils sont pas très sûrs. .fr. Voilà, ciao, bye bye. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour. Je ne sais pas trop.
Eh bien, il sera question d'un livre sans images sur un réalisateur japonais à double personnalité.
Mon dieu, on va encore parler des petits Mickey.
Non, l'autre.
J'aurais tenté, au moins. Enfin bon, voilà. De suite du sport, et je vois Sushinette qui, elle, est dans le même état que moi. Donc, je te souhaite bonne chance pour le direct. À tout à l'heure.